Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La vie religieuse est une des choses les plus méconnues à notre époque déchristianisée. Il y a quelques années encore, quand on parcourait les rues des villages, à notre vue, les enfants chantaient un refrain publicitaire, « Chaussez aux moines ». Pour eux, en effet, le religieux, le moine, n'existait plus que sous les boîtes de certains fromages. Mais aujourd'hui que cette publicité est passée de mode, les jeunes déchristianisés n'ont plus comme référence qu'un certain dessin animé japonais où le héros porte un vêtement qui ressemble à un religieux. C'est dans un tel monde que vous avez décidé d'entrer dans l'état religieux. Pourquoi ? Comme le jeune homme riche, vous pratiquez les commandements de Dieu tout en étant dans le monde. Mais comme lui, vous cherchiez plus. Vous avez posé la question à Jésus, « Que me manque-t-il encore ?» Et il vous a répondu, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis viens et suis-moi. C'est pour suivre Jésus, qui était le parfait religieux de Dieu, que vous êtes venu dans cette famille dominicaine. Une des innombrables familles que Jésus a suscitées dans son Église, pour reproduire par quelques côtés la vie qu'il a menée lui-même sur cette terre. Qu'est-ce que l'état religieux ? On peut le définir ainsi, un genre de vie stable, permanent, où le candidat s'engage à tendre à la perfection évangélique par les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, selon une règle de vie commune approuvée par l'Église. Tendre à la perfection par la pratique des trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance appartient à l'essence de la vie religieuse. Voyons tout d'abord comment les vœux opèrent une véritable consécration de la personne au service de Dieu. On appelle religieux, dit saint Thomas d'Aquin, ceux qui se consacrent totalement au service de Dieu. Consacrer veut dire mis à part, séparé du profane. Le religieux, par ses vœux, est donc mis à part, séparé du profane, pour appartenir totalement à Dieu. Saint Thomas dit que les vœux opèrent un véritable transfert de propriété. Le religieux ne s'appartient plus, il appartient à Dieu comme une chose consacrée, comme un calice, comme un autel par exemple, qui ne sert que pour le service de Dieu. C'est le jour de la profession perpétuelle que cette consécration devient irrévocable. Comme c'est une décision qui engage définitivement, elle a besoin de préparation. Cette préparation se fait pendant le temps du noviciat. C'est la première étape et peut-être la plus spectaculaire, puisqu'elle consiste à montrer, à signifier concrètement cette mise à part du monde profane, en recevant l'habit religieux ainsi qu'un nouveau nom. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui, Emmanuel. Vous allez vous dépouiller des habits séculiers pour revêtir l'habit religieux. Cet habit est simple, pauvre, hors des modes et des convenances du monde. Il préserve des vanités, du souci de plaire, des préoccupations vaines. L'habit religieux, dans sa forme, sa conception, a souvent une origine surnaturelle. C'est le cas pour l'habit des frères dominicains. Cet habit a été montré au bienheureux Réginald par la Vierge Marie elle-même. Il a donc une signification et une fonction en rapport avec le but de la vie religieuse. Que signifie-t-il ? Il signifie l'habit de gloire dont nous serons revêtus après la résurrection au ciel. Cet habit glorieux est tissé, assemblé petit à petit par la pratique des vertus et des bonnes œuvres. En même temps, s'effectue tout au long de la vie religieuse un dépouillement des défauts, des mauvaises tendances, source de tous les péchés, qui constitue notre vieil homme. Donc, toute la vie religieuse va constituer à se dépouiller du vieil homme pour revêtir cet homme nouveau, glorieux, qui apparaîtra pleinement au ciel. Cher Emmanuel, vous allez également changer de nom. Pourquoi cela ? Votre nom de baptême n'est-il pas honorable ? Si, et combien ? Mais ce nom nouveau que vous allez recevoir a aussi une signification très profonde. Il signifie la vocation spéciale à laquelle le Seigneur vous appelle. Le prénom de baptême signifie notre nouvel état de chrétien, notre appartenance au corps mystique du Christ. Mais parmi tous les membres du corps mystique, le Seigneur en appelle certains à une vocation spéciale, plus haute. Nous voyons cela dans les Saintes Écritures, dans l'Ancien Testament d'abord, où Dieu change le nom d'Abraham en Abraham pour signifier la vocation à laquelle Dieu l'appelle, être le père du peuple élu, d'où naîtra le Messie. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus appelle les premiers apôtres, il dit à Simon, qui est amené à Jésus par son frère André, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire rocher, pierre. » Notre Seigneur signifiait par là qu'il ferait de lui le chef de son Église. Et c'est ce qu'il confirmera quelque temps après à Césarée de Philippe, où lorsque Pierre confesse la divinité de notre Seigneur, il lui dit « Tu es Pierre, tu es rocher, Céphas, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Le nom que vous allez recevoir dans quelques instants, Emmanuel, signifie le nom que vous porterez au ciel quand vous aurez accompli la vocation à laquelle le Seigneur vous destine. Ce nom, c'est un nom, un patronage d'un saint qu'on va vous donner, mais le nom que Dieu vous donne, il est connu de lui seul. Ce nom, il vous faudra l'écrire, lettre après lettre, avec l'encre d'or de la charité, jour après jour, tout au long de votre vie religieuse. Cette vie religieuse, vous allez vous y exercer pendant un an, comme l'ont fait vos deux frères novices, les frères Pie-Marie et Marie-Thomas, qui s'apprêtent, eux, à faire leur profession temporaire. Profession temporaire qui est l'aboutissement normal, logique, de l'année de noviciat. Temporaire ne signifie pas qu'on s'engage à moitié. C'est simplement une prudence de l'Église qui tient compte des temps. Autrefois, au début de l'ordre, la réception de l'habit et la profession perpétuelle ne dépassaient guère plus d'un an. Pourquoi cela ? Parce que les caractères étaient trempés alors et les volontés résolues. Chers frères Pie-Marie et frère Marie-Thomas, en prononçant aujourd'hui vos premiers vœux, vous allez être mis à part d'une manière définitive, dans l'intention du moins. Cette consécration vous dépossède de tout et de vous-même pour appartenir tout à Dieu. Désormais, toutes vos actions, même les plus humbles, seront des actes religieux. Cette donation, bien sûr, demandent à être actualisés chaque jour, chaque instant. Et le terrain d'application, il est fixé par la règle et les constitutions. Un tel programme, vous allez entendre les austérités de l'ordre, a de quoi effrayer la nature, à juste titre. En effet, dit Monseigneur Gay, entrer en religion, c'est monter à l'autel. S'y lier à jamais par des vœux, c'est se fixer d'office dans l'état de martyr et de victime. Mais cette consécration à Dieu par les vœux vous crée des droits sur Dieu. L'obtention des grâces qui conviennent à une vocation plus haute. Vous vous donnez tout à Dieu et Dieu s'engage de son côté à vous aider, à vous faire parvenir à la sainteté. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Tous ceux, dit notre Seigneur, qui ont quitté père, mère, frère, etc., pour s'attacher à moi, recevront le centuple dès cette vie et auront ensuite la vie éternelle. Mais Dieu va encore plus loin. Il se donne lui-même. Comme Dieu est la source de toute béatitude et que vous avez tout abandonné pour ne vous attacher qu'à lui seul, il vous dit « C'est moi qui serai ta récompense et je serai pour toi une récompense magnifique jusqu'à l'excès. Je ne laisserai à aucun autre le soin de te combler. Parce que tu es mon hostie, parce que tu es tout à moi, je serai tout à toi, ton héritage, ta possession. Et tu trouveras en moi la béatitude. » C'est ce que nous aurons au ciel. Dieu sera tout pour nous. Et le but de la vie chrétienne, eh bien, c'est d'arriver, de tendre vers ce but. C'est donc un sacrifice, oui, mais dans la joie. Et quelle joie ! Car si le Seigneur a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Combien grande et sainte sera la joie de celui qui se donne tout entière à Dieu ? Cette consécration donc opère une séparation du monde. Il vous place dans l'état religieux, dans les meilleures conditions pour tendre à la perfection et réaliser votre vocation. Une comparaison peut nous aider à comprendre cette action des vœux favorisant la sanctification. C'est celle du greffon et du porte-greffe. Le greffon, c'est le religieux. Le porte-greffe, c'est Dieu. Pour que la greffe réussisse, il faut que le greffon soit solidement attaché au porte-greffe par des liens. Ces liens, ce sont les vœux. Ils serrent le greffon et le porte-greffe et ils permettent à la sève de mieux circuler. Si on disait au greffon, s'il pouvait s'exprimer, il dirait « les liens me serrent très fort, ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est pour son bien, c'est pour qu'il puisse produire des fruits excellents. » De même, les vœux, en liant le religieux à Dieu étroitement, jusqu'à ne plus faire qu'un avec lui, vont permettre à la grâce de mieux circuler dans son âme et de porter des fruits. Voyons plus précisément l'action des trois vœux. Les trois vœux s'attaquent aux trois concupiscences dont tous les hommes sont atteints, source de tous les péchés. Le vœu de pauvreté va déraciner l'instinct de propriété. La chasteté va mater la concupiscence de la chair et l'obéissance va rabaisser l'orgueil de la vie. Pour la pauvreté, cela se fait d'une manière concrète. Le religieux ne possède rien en propre. Par exemple, il n'a pas de montre, mais une montre à son usage. Il ne dit pas « ma montre », mais la montre à notre usage. Il n'a pas de cellule, mais une cellule à son usage. Chez les Capucins, il est prévu dans la règle de déménager tous les ans, pour ne pas s'habituer à tel mobilier, à tel positionnement de la cellule, plus ou moins ensoleillé, agréable. Notre Père Saint-Dominique nous a donné l'exemple tout au début. Il n'avait même pas de cellule attitrée. Il couchait où il y avait de la place, et s'il n'y avait pas de place, bien souvent il couchait dans un petit coin d'un couloir. Le religieux, par la chasteté, dirige toute sa puissance d'aimer vers Dieu. C'est le plus puissant moyen pour mater la chair, aidé par le jeûne, l'abstinence, la couche dure et les autres mortifications. Avec l'amour de Dieu, dit saint Jean de la Croix, l'âme est forte contre la chair, son ennemi. Car là où règne véritable amour de Dieu, ni l'amour de soi, ni l'intérêt personnel n'ont d'entrée. Le religieux, par l'obéissance à la règle et au supérieur, va identifier sa volonté à celle de Dieu. Cette liberté si terrible entre nos mains, eh bien, il va la canaliser. Il va rendre la volonté toute puissante sur lui-même et le faire participant à la puissance de Dieu pour vaincre le mal et diriger toute sa force vers le bien. Ainsi donc, les trois vœux, en enlevant les obstacles, enracinent la volonté dans le bien. Ils font croître la charité et son cortège de vertus. Donc les vœux vous placent dans une situation favorable pour tendre à la perfection. Et cela a un corollaire, c'est d'accomplir votre vocation spéciale à cette famille dominicaine, qui est la prédication. Il n'y a pas d'apostolat fécond sans sainteté. On pourrait prendre une comparaison, le sang qui circule dans l'organisme, eh bien, la charité, elle est semblable au sang qui circule dans l'organisme, elle circule dans le corps mystique de notre Seigneur. Celui qui grandit en charité va pouvoir rayonner sur le monde des âmes, même s'il est caché et ignoré du monde. Pensons à Sainte Thérèse, qui a mérité d'être la patronne des missions tout en restant dans son Carmel. Ainsi, l'humble frère convert est un prêcheur excellent s'il exerce ses divers devoirs d'État dans la fidélité à ses vœux et à sa règle. Ainsi, le frère étudiant prêche à l'avance déjà efficacement en accomplissant fidèlement son austère vie d'étude dans la fidélité à ses vœux et à sa règle. Donc, chers frères, bien à votre place, cloués à la croix par les trois vœux, vous allez participer à l'œuvre de la rédemption. Et si vous êtes fidèles tout au long de votre vie religieuse, vous pourrez, au soir de cette vie, dire comme notre Seigneur, « Tout est consommé, je remets mon âme entre vos mains. » C'est ce que je vous souhaite, chers frères, en vous confiant à la Vierge Marie, qui a pris notre ordre sous sa protection maternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.